Radio Grand Ciel présente Par ici les sorties, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, nous évoquerons la musique grâce à Jean-Paul Laramé et à Laure Colladan. Jean-Paul Laramé est financier, il enseigne la finance internationale à Strasbourg. Il est également un mélomane qui est omniprésent, je dirais, dans le Perche, puisqu'il est directeur de communication pour le Festival de musique en Eure-et-Loire et il est également président de l'Association pour la protection et la promotion de l'Église de Monceau. Jean-Paul Laramé, bonjour.
Bonjour Christiane Blanc.
Je suis également très contente de recevoir Laure Colladan. Laure Colladan, chers auditeurs, vous la connaissez puisqu'elle est vraiment une grande musicienne internationale, je dirais, mais qu'elle s'est beaucoup investie dans le Perche et nous lui en sommes très reconnaissants. Nous allons d'ailleurs l'écouter aujourd'hui dans plusieurs morceaux qu'elle a choisis. Laure Colladan, bonjour.
Bonjour Christiane.
Alors, Laure Colladan, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes venue peut-être dans le Perche, puisque nous vous connaissons sur un plan international, mais nous savons que vous habitez le Perche et que depuis de nombreuses années, vous donnez des concerts dans plusieurs églises du Perche.
Alors, ça fait une bonne vingtaine d'années que nous avons atterri dans le Perche avec mon mari, où d'ailleurs nous habitons, là où nous habitons, nous avons pu faire un atelier puisqu'il était facteur de pianoforte.
Oui, alors racontez-nous histoire merveilleuse à laquelle j'ai assisté quand votre époux nous avait fait découvrir qu'il avait eu un piano qui avait appartenu à Mozart.
Oui, c'est une grande histoire dans sa vie de facteur de pianoforte, puisque il a été le seul à pouvoir l'estimer, l'expertiser, le démonter, le remonter. Et à 99%, c'est une histoire assez fabuleuse de pouvoir dire que cet instrument a appartenu à la famille Mozart.
Voilà. Alors vous êtes pianofortiste.
Oui.
Et donc vous travaillez essentiellement sur...
Alors moi j'étais d'abord pianiste, j'ai fait des études de pianiste, et grâce à mon mari, je suis devenue pianofortiste, car j'ai eu la possibilité d'avoir de magnifiques instruments.
Oui, c'est évident, quand on a déjà le piano forte de Mozart, c'est tellement
Oui, mais
bien.
Enfin bon, il faut aussi que l'instrument marche, il faut que les instruments soient très bien restaurés.
Oui.
Et que, c'est tout un art de l'instrument qui va servir la musique.
Voilà.
Et nous, en tant qu'interprètes, à travers l'instrument, nous devenons des passeurs.
Voilà, ça j'adore cette expression, des passeurs.
Voilà, nous sommes des passeurs.
Alors justement, quand vous êtes maintenant dans le Perche presque à temps complet.
Ah oui. C'est ma résidence
principale.
Je vis dans le Perche, je suis très heureuse dans le Perche. J'aime énormément cette nature, cette liberté de respirer l'air, de voir les arbres, de voir les étangs, de voir les forêts, de pouvoir faire un trajet sans un feu rouge.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est très important.
Mais oui.
Alors, vous pouvez nous présenter peut-être aussi votre instrument.
Alors, mon pianoforte est un instrument qui date de 1800, donc que mon mari a restauré il y a maintenant petite quarantaine d'années.
Oui.
Et c'est un instrument qui a été fait à Naples par un certain Molitor. Filippo Molitor, c'est un instrument de mécanique viennoise, c'est-à-dire ce sont les premiers pianofortés qui avaient donc été construits avec une mécanique viennoise, découverte par Cristofori et puis après d'autres après comme Silbermann en Allemagne. Et puis tout ça a beaucoup évolué à la fin du XVIIIe siècle. Mozart donc a rencontré cet instrument d'ailleurs très jeune, quand il avait 9 ans. Et quand il a rencontré le pianoforte, il a écrit à son père qu'il n'écrirait plus que pour le pianoforte et non plus pour le clavecin. Voilà. Donc je reviens sur mon instrument, qui est un instrument à 6 octaves et qui m'a permis d'aller des Fischbach jusqu'à Schubert, Chopin. Je viens de faire un enregistrement Chopin.
Ah oui. Oui.
Et je vais vers Brahms.
Ah, voilà. Oui. Tout alors, doucement. Je crois que vous avez choisi de nous faire écouter...
Alors là, ce que j'ai choisi, c'est vraiment très classique. C'est oui. Un mouvement d'une sonate de Clementi.
Oui.
Sonate opus 7, numéro 3.
Oui.
Voilà. Et qui sonne à merveille sur ce piano. C'est voilà.
Eh bien, nous allons l'écouter. Alors, j'en arrive maintenant à la création du Festival de musique en Eure-et-Loire. Alors, j'aimerais bien que vous nous présentiez ce festival.
Alors, c'est vrai que c'est une idée dont j'ai beaucoup parlé avec François Salk.
Oui.
Cette idée, c'est de...
Alors, peut-être présentez-nous François Salk, parce qu'on ne
voilà,
le connaît pas
tout
forcément.
Voilà, tout à fait. François Salk est un immense musicien.
Oui, ça, je sais parce que j'ai entendu.
Un immense violoncelliste, oui. Très sympathique, très généreux.
Oui.
Ça, vraiment. Et très fédérateur entre tous les musiciens. Il organise énormément de choses, tout en jouant lui-même beaucoup.
Oui.
Et donc, nous avons beaucoup sympathisé. Et il a créé d'ailleurs une structure qui s'appelle Musique d'un siècle, et qui, elle, porte toutes les organisations de concerts.
Et ah oui, et notamment celle-ci. Alors.
Et notamment... c'est ce qui nous permet administrativement d'être léger pour les lieux qui nous accueillent,
oui.
Tels que les églises ou les petites communes,
oui.
Qui n'ont rien à faire, au fond, que d'accueillir le concert.
Très bien.
C'est quand même vraiment une très belle initiative.
Oui, oui.
Voilà, et donc on a créé ce festival dans l'amitié, dans la joie de faire de la musique ensemble quand ça se présente, voilà.
Alors je sais que vous avez voulu nous faire écouter un extrait justement voilà. Avec François Salk.
Voilà, alors François a un très grand partenaire qui s'appelle Vincent Perani, qui est un très bel accordéoniste.
Oui.
Et donc là, j'ai choisi une pièce de Piazzolla qui s'appelle Un grand tango.
Nous l'écoutons. Eh bien, après avoir écouté ce bel extrait de Piazzolla, j'en arrive à vous, Jean-Paul Laramé, parce que vous avez une grande responsabilité dans ce concert, puisque vous êtes directeur de communication pour ce festival en Eure-et-Loire. Alors, tout d'abord, comment vous est venue cette idée de diriger ce festival ?
Parce que je suis un grand admirateur de Eure-et-Loire.
Oui.
que je la vois faire une musique absolument magnifique, mmh. et qu'elle devrait, à mon sens, se consacrer uniquement à la musique et pas à faire de la communication, parce que c'est un peu perdre le temps d'une grande musicienne. Voilà. Moi, je ne suis pas un grand musicien, et donc je peux consacrer du temps à la communication.
Oui, bah, vous êtes quand même un grand musicien, puisque vous organisez également un concert à Monceau.
C'est-à-dire qu'on a, moi j'ai présidé l'association de protection et de promotion de l'église de Monceau, à la demande de Philippe Siguré d'ailleurs et du maire à l'époque, parce que c'était une toute petite église dans un bourg de 87 âmes, et que donc elle partait en ruine. Et donc oui. Il fallait bien trouver de l'argent, il fallait bien trouver des fréquentations, des appuis, pour que cette église puisse rester debout en fait.
Oui, exactement.
Et donc, c'est grâce à la musique que pour l'instant, elle a été consolidée et qu'elle va sans doute être restaurée.
Eh bien, j'espère que vous reviendrez pour nous parler du concert à Monceau.
Ah oui, très, très volontiers, très, très volontiers.
Très bien. Alors, en attendant, eh bien, présentez-nous le festival de musique en Eure-et-Loire.
Moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est parce que le festival, Laure le présentera tout en détail, avec oui. beaucoup de talents, pour présenter de la musique comme elle sait faire.
Oui.
Mais moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est que un festival de musique classique ou même contemporaine dans le Perche, c'est pour moi extraordinaire. D'abord parce que on fait revivre des lieux qui étaient désertés. Quand on arrive dans l'église de la Godaine, par exemple, oui. il y a 150 ou 170 âmes à la Godaine, elle n'est pratiquement jamais ouverte, cette église. Et donc, le fait de donner un concert là, ça la rouvre, ça l'aère, ça fait venir des gens, ça la fait connaître. Et donc, c'est quelque chose de bien qu'on fait là, à mon avis.
Oui, mais ça c'est évident. Et nous en sommes tous, voilà. nous les Percherons, très reconnaissants parce que depuis qu'il y a justement ces concerts dans le Perche, eh bien, les églises... retrouvent leur âme parce qu'il y a maintenant beaucoup de gens qui viennent à l'église qui n'y viendraient
tout
peut-être
à fait,
pas autrement.
Tout à fait. Et puis moi, il y a une autre chose, c'est qu'on n'entend pas la musique de la même façon dans une église, surtout si elle est petite, et ailleurs, dans un studio ou dans un champ de concert. Oui. Je voudrais juste rappeler, par exemple, ça n'a rien à voir avec le Perche, mais quand John Eliot Gardiner a voulu enregistrer l'intégrale des cantates de Bach, il a tenu à le faire dans chacune des églises où elles avaient été créées. Et je trouve que c'est une dimension qui est une autre dimension.
On peut dire que c'est une dimension spirituelle.
Tout à fait, tout à fait.
Parce qu'on est entouré de beauté.
Quand on est dans une petite église comme ça, le public est beaucoup plus proche des musiciens. Il est physiquement très proche et à la fin, on peut discuter avec les musiciens, boire un verre avec les musiciens et c'est un contact qu'on n'a pas au Théâtre des Champs-Élysées ou à l'Opéra de Paris ou au Concert Gebro d'Amsterdam. C'est vraiment pas ça. Et ça, je trouve que un festival de musique classique dans le Perche, dans les églises du Perche, dans les lieux du Perche, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment.
Alors, le premier concert aura donc lieu le samedi 13 mai à 20h30. Alors, vous pouvez peut-être rapidement nous présenter l'église de la Godaine.
Alors, l'église de la Godaine, moi, je la connais grâce au festival, d'ailleurs. Parce
oui.
que 170 habitants, on n'y va pas tous les jours. Et ce que je trouve, qu'elle est belle dans son ensemble, mais il y a aussi des choses absolument extraordinaires qui sont, par exemple, les engoulants.
Oui.
Les engoulants de la Godaine sont quelque chose, ça date du XIIIe siècle.
Alors expliquez ce que
siècle.
C'est parce que...
C'est le prolongement, si vous voulez, d'une poutre par exemple, mmh. en forme de gueule un peu. Alors ça peut être des gueules de dragons, ça peut être des gueules de chimères, ça peut être des gueules de griffons. Et celle de la Godaine, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui les voient dans une année, mais ça vaut le détour franchement.
Bien. Alors maintenant, Laure, qu'est-ce qu'on pourra entendre à la Godaine ?
Alors, avant de vous dire ce que l'on pourra entendre, j'aimerais soulever justement l'aspect très spirituel de l'acte de faire de la musique dans ces très jolies petites églises, ne serait-ce que parce que la musique que l'on va jouer pour la plupart du temps, jusqu'à une certaine période, c'était quand même une musique sacrée, spirituelle. Je préfère encore le mot spirituel. Et c'était une façon de faire de la musique.
Oui, que parce qu'on perd, est entouré de beauté.
Voilà, et que l'on perd dans les grandes salles de spectacle.
Exactement.
Ça ne veut plus dire la même chose.
C'est vraiment une élévation de l'âme.
Voilà, dans les vraies dimensions qui peuvent accueillir ces échanges d'émotions, ces échanges de sentiments musicaux, et voilà.
Alors,
la Gauden, on va commencer par un récital de violon-guitare avec deux magnifiques musiciens, Pierre Fouchéneret au violon, Jérémy Jouve à la guitare. Ensuite, le dimanche 14 mai, à la chapelle Saint-Pierre de Réveillon, à la Ferté-Vidame, ce sera un concert Mozart. Et là, c'est un grand luxe parce qu'on pourra jouer avec deux pianofortés. La sonate de Mozart a deux pianofortés, qui est unique. C'est la seule. Et avec une violoniste excellente, nous jouerons également des sonates avec pianoforte et violon.
Alors Réveillon, Jean-Paul Laramé.
Réveillon, c'est un éblouissement, Réveillon, parce que c'est une chapelle romane à l'origine, mais c'est surtout une des églises de France, des très rares églises de France qui ont conservé leur peinture murale.
Et ça a été entièrement restauré.
Et qui s'est admirablement fait. Il y a tous les détails. C'est même plus beau, pour moi, qu'à la Chaise-Dieu, qui est une très grande église, où il y a un très grand festival de musique également. Oui. Mais c'est un éblouissement.
Et moi, je rappelle pour nos auditeurs que Réveillon se trouve en Eure-et-Loire. Et qu'il faut bien faire attention quand vous viendrez dans ce concert,
aussi,
parce qu'il y a un réveillon dans l'Orne. Donc, si vous mettez sur votre voiture réveillon, vous risquez d'arriver dans l'Orne. Donc, il faut bien signaler que réveillon se trouve en Eure-et-Loire.
Oui,
Laure.
Oui, je m'excuse. Je voulais présenter la violoniste qui s'appelle Sachiko Segawa et le deuxième pianofortiste qui est Henri Besançon. Un tout jeune musicien très talentueux. Alors, le troisième concert, c'est le récital de Jean-Claude Pentier à l'église au Ton du Perche, qui va faire un concert autour de Scriabine, Rachmaninov, Sibelius, Schubert, Brahms. Et la deuxième partie serait dédiée à la valse.
Ah, très bien.
Oui, mais c'est magnifique. Évidemment, Jean-Claude Pentier, c'est un immense musicien.
On le connaît parce qu'il est déjà venu dans le Perche.
On le connaît, mais finalement, on ne réveille pas assez la curiosité des gens à venir l'écouter encore et encore et encore.
Oui, vous avez raison.
C'est pas une seule fois. La vie est longue.
Oui.
Et il peut encore nous donner des émotions magnifiques.
Alors ça se passera à Autun-du-Perche.
À Autun-du-Perche, oui, dans l'église Saint-André,
qui
est une église peut-être moins spectaculaire que les deux précédentes. Oui. Elle est plus grande, mais c'est quand même une église du XIe siècle qui est quand même extrêmement belle, vraiment extrêmement belle. Et surtout qui est... On les voit pas assez si on fait pas attention, mais il y a par exemple un banc d'œuvre qui est de toute beauté, mais vraiment de toute beauté, très extraordinaire. Et l'ambiance aussi musicale et l'ambiance religieuse est vraiment très imprégnante. On sent dans l'histoire qui passe là.
C'est vrai que ces petites églises sont très belles parce que il y a quelque chose qui est presque indéfinissable, mais on s'y sent bien. C'est ça, je crois que vous-même, on sent que quand vous jouez dans ces églises, vous êtes un peu transporté.
Oui. Mais ce sont des lieux d'accueil. Hein. En fait, une église, c'était pour accueillir les gens, les pauvres, les gens qui étaient sans logis, démunis. Ils pouvaient trouver peut-être une solution, une aide.
Oui.
C'est ça le but de l'église. Et... Bon,
un début.
C'est un début, oui. Mais finalement, de faire de la musique dans ces lieux, c'est aussi transmettre ce bien-être intérieur qui est tellement, tellement important.
C'est vrai, quand on sort d'un concert, quand vous avez écouté, on se sent bien. On se sent réconforté.
Exactement, c'est tant mieux, hein. c'est ce qu'il faut.
C'est le but, un des buts.
Alors, le dimanche 21 mai, c'est dans l'abbatiale de Thiron-Gardet, un superbe lieu.
Alors là, je crois que
Jean-Paul
va nous en parler très longuement.
Parce qu'on l'a vu ensemble, d'ailleurs, on a été surpris de la beauté de ce lieu. Et donc, ce sera le quatuor Métamorphose qui va jouer un quatuor de Mozart. Magnifique, et le quatuor de Schubert, opus 15, en sol majeur. Alors, ce quatuor est formé de quatre très beaux musiciens, Mathilde Potier au violon, Hugo Boulanger au violon, Clémence Dupuis à l'alto et Alice Picot au violoncelle. Je donne la parole à Jean-Paul.
Alors, je voudrais dire deux choses quand même à propos de Thiron. On va parler de l'abbaye qui est extraordinaire, fondée par Bernard de Ponthieu. Enfin, je ne vais pas refaire l'histoire depuis le 12e siècle.
Mais si vous pouvez, parce que ça fera plaisir à nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément Thiron-Gardet.
Enfin, s'ils ne le connaissent pas, il faut absolument qu'ils y aillent parce que c'est 8 siècles d'histoire.
Oui.
Et c'est
Thiron. C'est une grande église.
C'est une immense abbatiale avec non seulement l'abbatiale, mais le scriptorum, le jardin, etc. C'est extraordinaire.
Oui, parce que là, il faut dire à nos amis qui viendront, c'est qu'ils pourront également avant voir ce jardin absolument somptueux.
Absolument. Non, le jardin, la grange aux dîmes aussi. Enfin, c'est un centre de civilisation depuis 8 siècles. Enfin, son influence allait jusque dans l'Écosse. Enfin, c'est quand même absolument extraordinaire. Je voudrais dire également, mais c'est moins connu, beaucoup moins connu, c'est qu'on va donner un concert, le quatuor va donner un concert, entièrement gratuit bien évidemment, à la maison de retraite de Thiron-Gardet.
Ah, ça c'est très bien.
Parce que on en a beaucoup parlé avec Laure, je trouve que le rôle des musiciens comme ça qui font un festival, c'est aussi d'apporter de la musique à des gens qui n'ont pas les moyens de l'entendre. J'ai visité avec beaucoup d'émotion moi, la maison de retraite avec sa directrice. Et vraiment, on voit des gens là, qui sont en fin de vie et que 4 gamins leur apportent un concert. Je trouve que c'est un moment magnifique. Et faut vraiment remercier les musiciens d'avoir accepté de faire ça gratuitement à Thiron-Gardet.
Oui, c'est une très bonne idée. Alors, je rappelle aussi que ce concert est à 16h30. Est-ce qu'il y a aussi une recherche dans cet horaire ? Est-ce que vous avez pensé aussi qu'il pourrait y avoir des visites après ?
Alors, il y a deux choses, si vous voulez. Il y a un peu de marketing, parce que la partie marketing, c'est si un concert a lieu à 16h30, il finit vers 18h, et les Parisiens qui veulent rentrer à Paris peuvent rentrer. Ça, c'est un point de vue marketing, c'est un peu tristounet, mais bon, on va le dire quand même. Et l'autre chose, c'est que en terminant vers 6h, on a d'abord la possibilité de boire un verre de l'amitié qui est offert par la municipalité, ce qui est quand même extrêmement sympathique.
Oui.
Et d'autre
et puis
part,
c'est surtout qu'on peut, parce que je crois qu'il faut le redire, on pourra parler avec les musiciens.
On pourra parler avec les musiciens, bien sûr. Et le maire de Thiron-Gardet, qui est un type formidable, vraiment un des plus jeunes maires de France, un grand dynamisme. Et il va organiser aussi une visite guidée de l'abbatiale, de la grange aux dîmes, des jardins, etc., du scriptorium, après le concert. C'est-à-dire si on veut, on peut prendre, si on n'est pas parisien, qu'on ne rentre pas à Paris, on peut rester là, visiter avec un guide. Vraiment, c'est un très très bon moment.
Et même dîner, parce qu'il y a tout
ce qu'il faut
regarder.
Là, je ne suis pas critique gastronomique, mais je pourrais le faire une autre émission.
Je le dis pour nos auditeurs, parce que ça peut être vraiment un très bel après-midi.
Tout à fait,
et une très belle soirée.
Tout à fait extraordinaire.
Alors, redisons très rapidement les dates et les horaires pour nos auditeurs, Jean-Paul Laramé.
Il y a encore le dernier concert.
Peut-être avant de terminer pour ce dernier concert qui aura lieu le dimanche 28 mai.
Voilà.
Peut-être faudrait redire ce récital, les dates exactes avec les horaires, parce qu'on n'a pas... Pour les quatre concerts.
Alors ça, c'est très facile. Le premier, c'est le samedi 13 mai à 20h30 dans l'église de la Godenne.
Voilà.
Le second, c'est à la chapelle Saint-Pierre de Réveillon, donc à la Ferté-Vidame, c'est à 16h30,
voilà.
Pour les mêmes raisons que j'ai lancées tout à l'heure.
Le 14 mai.
Oui.
Et le samedi 20 mai, Le récital de Jean-Claude Pentier, c'est dans l'église d'Auton-au-Perche, et c'est à 20h30. Et le dernier, le dimanche 21 mai, c'est à 16h30, à Thiron-Gardec, pour les raisons qu'on a évoquées voilà. tout à l'heure.
D'ailleurs, je voudrais vous demander, est-ce qu'on peut avoir les programmes? Est-ce qu'on peut retenir les places? Si on veut en savoir plus,
alors, est-ce qu'on peut se... Il y a un numéro de téléphone qu'il faut bien noter. Oui. Je demande à tous les auditeurs de prendre un crayon et un papier.
Oui.
C'est le 02 33 25 70 10. 02 33 25 70 10, c'est à travers le parc national, le parc régional naturel du Perche.
Très bien. Alors j'en arrive à ce grand concert du dimanche 28 mai.
Voilà. François Salk donne avec trois autres violoncellistes.
Oui.
Donc ils seront de 1 à 4.
Oui.
Pour un programme très ludique, superbe, de Bach à nos jours. Et il sera donné dans un très beau lieu, qui n'est pas une église, mais qui est quand même un des lieux les plus poétiques et artistiques du Perche, oui. qui est le château du Tertre.
Oui. Alors Jean-Paul Aramé, peut-être vous nous parlez un petit peu du château du Tertre. Alors d'abord sa situation.
Alors là, il faudra faire une émission sur le château du Perche.
On va
parler
de
Martin Dugard, on va parler d'André Gide, parler de Véronique de Copé maintenant, qui a une activité absolument extraordinaire, non seulement de musique, mais de théâtre, de conférences. Donc ça, une prochaine émission sur Véronique de Copé, et avec Véronique de Copé.
Voilà. Donc là, c'est quand même un très bel endroit. Et peut-être, que pouvez-vous ajouter, Laure Colladan ? Concert, donc il y aura Bach
à nos jours, et il y aura deux concerts, c'est-à-dire un à 18h et un à 20h. Parce que la jauge du salon n'étant pas très grande, c'était aussi donner la possibilité à plus de public de pouvoir bénéficier de ce très beau concert.
Donc dimanche 28 mai à 18h, et à 20h, le violoncelle de Bach à nos jours et de 1 à 4. Un grand merci à vous deux. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr et nous terminerons en musique.
Voilà, oui, merci. Je voulais dire que pour terminer, ce sera Poisson d'or, des images de Debussy par Jean-Claude Pentier.